Europe 1, en balade avec Elena Noguera, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, celle avec qui nous partons en balade aujourd'hui se décrit elle-même comme une grande tige dadaïste et féministe. Elle chante, elle joue la comédie, elle écrit les paroles de ses chansons, des romans, du théâtre. Elle a été mannequin, animatrice de télé, elle a même réalisé un film porno pour la collection X Féminin de Canal+. Aujourd'hui, elle sort un album sobrement intitulé « Nu, Elena Noguera », puisque c'est elle qui nous a donné rendez-vous à l'hôtel particulier dans l'ancien maquis de Montmartre.
Europe 1, 11h30, en balade avec Elena Noguera, Frédéric Taddeï.
Bonjour Elena Noguera.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Nous sommes dans le jardin de l'hôtel particulier, il y a des oiseaux. Vous aimez les fleurs ?
Ah oui, j'aime beaucoup les fleurs, je ne les connais pas encore bien, je fais connaissance avec elles.
C'est vrai ?
Ouais.
Ici il y en a beaucoup, alors c'est à la fois un hôtel, un bar et un salon de thé.
Oui, c'est l'hôtel particulier.
Voilà, c'est un souvenir du maquis de Montmartre. À l'époque, oui, il y avait le maquis de Montmartre. Ici, c'était des bidonvilles, des baraques.
Oui, des carrières.
Oui, surtout beaucoup de baraques faites de récup où habitait la population la plus pauvre. Tout ça a été détruit après la Première Guerre mondiale, quand on a percé l'avenue Junot. Et on a fait le Montmartre qu'on connaît maintenant.
Voilà, et maintenant, c'est les plus riches. Je crois que l'avenue Junot, c'est l'avenue la plus chère de Paris.
Oh, c'est une des... En tout cas, c'est parmi les plus belles maisons. Et ici même, je crois d'ailleurs que l'hôtel particulier, c'était la famille Hermès autrefois.
Ah oui, c'est possible, j'ai entendu
c'est
ça.
C'est ce qu'on dit, en tout cas.
Ils ont de belles choses.
Oui, oui.
Enfin, belles, grandes, en tout cas.
Vous dites souvent que vous n'attachez pas beaucoup d'importance aux vêtements.
Oui.
C'est pour ça que vous avez appelé votre album Nu.
Nu. Oui, entre autres, il y a plein de raisons à ce titre. Mais c'est vrai que j'ai tenté la décroissance heureuse. C'est très difficile, mais je l'ai vraiment tenté. Et c'est compliqué. J'ai recru entre-temps parce que je régresse.
Vous voulez dire que vous avez cessé d'acheter des vêtements ?
J'ai cessé. J'en achète déjà très peu. J'ai jamais été très... très passionnée par le vêtement, pas très coquette malgré les apparences. Je sais fabriquer vite fait, mais je m'en fous un peu.
Vous avez eu un sacré rouge à lèvres aujourd'hui.
Là, j'ai un gros rouge à lèvres, ouais, mais c'est à peu près tout. Mais justement, en fait, il faut trouver des méthodes. C'est-à-dire que comme j'avais pas envie de me maquiller rien, j'ai mis du rouge à lèvres, ça fait un peu de l'effet. Mmh. Et ça sophistique, mais voilà. Rien sur la peau, rien dans les cheveux.
Je me suis toujours dit, ça doit faire bizarre de mettre du rouge à lèvres. La plupart des femmes sont habituées, ça leur semble naturel. Ouais. Mais pour nous, en tout cas pour moi, je me dis toujours, ça doit être très bizarre de se mettre ça sur les lèvres.
Mais non, parce qu'on est habitués. En fait, les femmes sont habituées à l'artifice. Elles naissent et on leur dit qu'elles auront droit à ça et même qu'il faudrait qu'elles le fassent parce que sinon, elles ne seront pas tellement femmes. Et donc, on s'y habitue. Et c'est vrai, quand on voit l'artifice chez les hommes, on est un peu gêné.
Mais quand on embrasse un garçon, ça doit être bizarre, non ?
Louis XVI, du rouge à lèvres, hein. Ça dépend des modes, ça reviendra peut-être.
Quand on embrasse un garçon, ça doit être bizarre.
Oui, mais je suis là. Ouais, voilà, il laisse pas de traces.
Ah, celui-là ne laisse pas de traces.
Mais sinon, en général,
Je précise pour nos auditeurs que vous n'avez pas essayé sur ma bouche, mais sur votre main.
Oui. En effet, j'ai fait un bisou sur la paume de ma main. Mais non, après, ça se réfléchit. Si on a un rendez-vous galant et qu'on imagine qu'on va rouler des pelles, on ne met pas de rouge à lèvres.
Ah bon ?
Oui, je pense. Enfin, j'en sais rien.
Ouais.
Mais je crois, ouais.
En tout cas, pour un garçon, c'est toujours différent d'embrasser une fille
qui a du rouge à lèvres
ou qui n'en a pas.
Eh oui, c'est un goût peut-être, Winoda.
Pourquoi vous l'avez appelé Nu, cet album ? J'ai l'impression que vous êtes nue sur tous vos albums.
Ah bon ? Non. Est-ce que j'étais déjà nue ? J'en ai fait un, effectivement, sur un lit, nez dans la nature, il était nu.
Exactement, vous étiez nue.
Et oui, j'étais déjà déshabillée dans le lit. En fait, j'étais déjà dans un lit, même sans doute parce que le lit est vraiment une pièce de mon existence.
Qui est-ce que ça n'est pas une pièce de l'existence ?
Oui, mais moi j'y vis beaucoup.
C'est vrai ?
J'ai fait plus que dormir ou des choses à deux. J'y lis, j'y mange, j'y écris. En fait, le rêve ultime, c'est une pièce lit. C'est-à-dire, il n'y aurait que le matelas et voilà.
Vous vivez vraiment dans la sobriété ?
Bah, ça va, non, c'est pas ascète chez moi. Mais je vous dis, c'est un peu comme moi, ça a l'air sophistiqué, mais ça ne l'est pas.
Et alors, dans ce lit, sur la pochette de nu, on n'arrête pas de vous en parler, je sais, mais oui, il y a un très bel homme noir.
Ça, ouais, joli,
hein. Et ça fait beaucoup parler.
Danny.
Oui, c'est un danseur.
C'est le danseur qui me portait lorsque nous faisions le spectacle des Parisiennes aux Folies Bergères avec Ariel Dombal, Ina Modja et Mareva Galanteur. Et donc, nous avions des danseurs et ce beau Danny me portait. Il était vaillant et il était suffisamment grand et fort pour porter la grande
et là, il vous met en valeur, encore une fois.
Oui, et vice-versa.
Vous apparaissez donc au milieu de ce lit, de dos, oui. Nu. Oui. Et vous avez un tatouage en haut du dos. Je n'ai pas réussi à voir ce que
là,
ce
il
que
y en c'était. A deux, mais on en a enlevé quelques-uns.
Ah bon,
ouais. Il y avait trop de lectures, donc on en a enlevé quelques-uns. Ça brouillait un peu l'image.
Oui, surtout que maintenant, on se tatoue des phrases hein, carrément sur le corps. Oui. C'est très, très long à lire.
Des fois, c'est long. Moi, j'ai pas de phrases. Là, ceux qui sont visibles, il y a un petit ange à droite. À gauche, il y a une étoile. Et dans le cou, il y a un mot « inexorable ».
Inexorable. Mm-hmm. Vous avez tatoué le mot inexorable
mais
sur votre peau.
C'est joli. Rire.
J'admets, c'est un joli mot.
J'ai beaucoup de copines qui se moquent, donc j'ai beaucoup d'humour dessus. Bah, les hommes n'osent pas, mais peut-être qu'ils se moquent entre eux après. Ils disent
inexorable. Oh, c'est très très joli, mais pourquoi ce mot-là?
Parce que quand on était petit, il y avait apostrophe. Et dans apostrophe, à la fin, Pivot, il faisait un questionnaire de Proust et demandait à tous les écrivains, à la fin, quel est leur mot préféré de la langue française. Donc, j'ai pensé à ça, sans doute, entre mes 7 et mes 10 ans. Et à 10 ans, j'ai décidé que c'était inexorable. J'aimais bien la sonorité et j'aimais bien ce que ça voulait dire.
Europe 1.
S'habituer à l'inexorable, ce qui est. Et voilà, c'est un peu...
Eh bien, nous allons partir en balade.
Partons en balade.
Partons en balade avec Elena Noguera.
Bon dimanche sur Europe 1, on balade avec Frédéric Taddeï et Elena Noguera. Il est 11h09, Frédéric Taddeï et Elena se trouvent actuellement dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier de Montmartre où habitait un célèbre poète.
Nous remontons donc l'avenue Junot avec oui. Elena Noguera. Et
oui.
Et alors, je me souviens d'une tribune de Libération où vous décriviez, enfin vous l'aviez signée en vous, Elena Noguera, actrice, grande tige. Dadaïste et féministe. Et justement,
ah bah voilà.
On passe devant la maison de
Bravo.
Tristan Tzara.
Absolument.
Qui est au 15 avenue Junot.
Ouais.
C'est pour lui que l'architecte autrichien Adolf Loos avait construit cette très belle demeure.
Non, elle n'est pas si belle que ça d'ailleurs, de dehors. Oh, peut-être que dedans elle est belle, mais...
Pourquoi dadaïste alors?
Longue tige dadaïste. Oh, parce que j'aime bien... J'aime bien déformer les choses ou en tout cas les rendre absurdes.
Et vous ne respectez aucune convention comme les dadaïstes?
Est-ce que j'en respecte aucune? Si, sans doute qu'on pourrait me piéger, mais disons que j'essaye au maximum de pas trop... ou en tout cas de penser ce que je fais. Après, parfois, je me soumets.
C'était des négativistes. Est-ce que vous êtes une négativiste, vous, Elena Noguera?
C'est quoi des négativistes?
C'était des gens qui disaient non à tout.
Ah non, non plus. J'ai beaucoup dit oui. J'ai appris à dire non. Et maintenant, il faut que je réapprenne à dire oui. Parce que je me rends compte que je mets plus vite des limites qu'avant. Et peut-être trop vite maintenant.
Vous disiez oui à toutes les propositions, même les mauvaises?
Non, mais j'avais du mal à dire non, donc il y avait une forme de lâcheté. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose de plus transparent qui s'est mis en place, et de plus facile, et de plus direct, de plus vrai. La vérité est très pratique, me disait un ami.
C'est vrai que vous avez passé votre bac à 40 ans?
Oui, absolument. J'ai quitté l'école à 15 ans.
Pour être mannequin à l'époque.
Pour être mannequin. Et c'est vrai, quand je suis arrivée à l'âge de 40 ans...
Ça vous a manqué tout à coup.
Non, ce n'était pas pour avoir le bac en soi, ni pour me faire une preuve, ni pour me rassurer. C'est que j'ai grandi avec le fantasme de devenir psychologue pour enfants. Je voulais devenir Françoise Dolto. Donc je m'étais dit, bon bah là, à 40 ans, si je passe mon bac et que j'étudie, peut-être qu'à 50 ans, je peux encore devenir cette psychiatre, cette psychologue pour enfants. Et puis, ce qui est bien, c'est de se confronter à ces fantasmes, parce que finalement, je me suis rendu compte que l'année qui venait de passer, je n'avais pas ouvert un seul livre de psychologie, mais que j'avais écrit des chansons, que j'avais écrit des choses, et qu'en fait, j'étais exactement à l'endroit qu'il fallait. Donc voilà,
Alors, vous voyez, là, nous passons, nous sommes rue Le Pic, nous passons devant l'immeuble où Louis-Ferdinand Céline a écrit Le Voyage au bout de la nuit, mort à crédit.
Ouais, où ils ont fait le coquericot.
Au-dessus du coquericot. Voilà.
D'accord.
Il habitait là. Ensuite, il a déménagé juste pour. Là, il y a 30 mètres, dans la rue Gérardon. Donc là, il y a du bruit, ce sont les travaux. Hein. Nous sommes
oui,
à Paris.
Il y a des petits travaux dans la rue.
Il paraît que vous avez eu une éducation très pointue culturellement, vous.
Oui, mais j'ai pas tout compris. C'est ce qu'il voulait faire, mais parfois vous êtes réticent à ça.
Enfin, vous avez lu tout Balzac, tout Feinzweig.
Oui, j'ai fait ça, mais.
C'est ça a l'air de vous peser.
Non, mais c'est parce qu'en fait, quand vous dites ça à 25 ans, à 30 ans, c'est quelque chose. Mais quand à 50 ans, vous n'avez rien fait d'autre, c'est plus grand-chose.
Bah, ce n'est pas votre cas.
Non, mais je n'ai pas une
vous
grande culture.
Vous avez fait tellement de choses. Vous.
Si vous me mettez face à Solers, j'ai un grand déficit culturel. Donc, je vois bien que je n'ai pas continué dans cette voie. Donc, je trouve que ça n'a plus de sens de dire ça maintenant. Enfin, ça a un sens à 24, à 25, à 30 encore peut-être, mais là je vois bien que j'ai stagné. Voilà.
Ah oui.
Ouais.
Nous sommes rue Gabriel. Ça me rappelle toujours les ripoux, le début des ripoux.
Ah, ils sont là ?
Ben
là,
oui,
j'ai pas
là
vu
où,
le film.
C'est là où Philippe Noiret et son partenaire
Thierry Lhermitte
se font serrer par la police et il est obligé d'arrêter son propre partenaire. C'est le début du film.
Ah ben, j'ignorais, j'ai pas vu le film, par contre j'ai habité ici 15 ans.
C'est vrai ? C'est
ouais.
Une très belle rue.
Ah ben, j'adore.
De verdure, de magnifiques
maisons. Ça me manque.
C'est vrai ? Pourquoi vous êtes partie ?
Parce que j'étais nostalgique.
De quoi ? De quoi d'autre ?
De ma vie d'avant, de la vie d'ici. J'étais déjà nostalgique de ma vie d'ici.
Donc il fallait en partir.
Donc il fallait partir pour vivre autre chose. Non, parce que c'est l'âge où mon fils est parti de la maison et donc, en fait, je revisitais ma vie à l'aune de son enfance. Donc, chaque rue, c'était son macaron au chocolat, son école.
Oui,
tout était référé à...
Il ne faudrait jamais que les enfants nous quittent.
Voilà. Et donc, j'ai déménagé pour continuer ma vie sans ce référent-là.
Et ça va bien maintenant ?
Absolument. Maintenant, ma vie est à moi. Elle n'est plus dans le passé. Mais j'aime bien ici. Ça me manque. Je reviendrai quand j'aurai... enterrer le passé pour de bon.
Vous êtes née à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il y a de belge en vous ?
Oh, tout, beaucoup de choses. Enfin, tout, j'en sais rien. Mais oui, beaucoup de choses. Alors, je dirais...
L'humour, non ?
Il y a une forme d'humour, de recul, de... Je dirais le refus de la hiérarchie, en fait.
C'est... Ah bon ?
Ouais. Il y a quelque chose chez le Belge qui n'est pas impressionné par les big boss, les patrons, parce que... Tout le monde se considère de la même manière.
En même temps, moi, ce qui me frappe toujours quand je vais à Bruxelles, c'est que c'est une ville beaucoup plus petite que Paris.
Oui.
Et en même temps, les avenues sont beaucoup plus larges. Je me suis toujours dit, il y a un côté absurde.
Bah, ils étaient dada, hein, d'ailleurs. C'est né là-bas, le dadaïsme.
Non, le surréalisme. On dit toujours que les Belges sont surréalistes.
Ah, voilà.
Alors, autour de nous, il y a toujours des petites maisons.
Oui.
Enfin, c'est très...
Voilà, là, il y a un théâtre à notre gauche. C'est un théâtre ouvert, c'est un théâtre romain. Moi, j'habitais en face et donc c'est très pénible l'été parce que vous ne pouvez pas écouter votre musique. C'est imposé par... Il y a des concerts de qualité en plus de jazz et des pièces de théâtre, mais tout l'été.
Ah oui.
Donc c'est très joli comme ça, mais à vivre quand vous êtes là.
Oui, et en effet, l'immeuble juste en
c'est
face.
C'est dur.
On est au bout de la rue Gabriel, devant nous, il y a le funiculaire de Montmartre. Ben, on se retrouve dans un instant.
Merci de nous rejoindre, vous êtes bien sur Europe 1 et jusqu'à midi et demi, nous sommes en balade avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Elena Noguera. On est rue Foyatier, à côté du funiculaire de Montmartre. Le funiculaire, c'est cet ascenseur. Oui, c'est un ascenseur, au fond,
c'est
automatique.
C'est un tram-ascenseur.
Hein, voilà, c'est entre le métro et l'ascenseur, qui nous amène du ciel à l'enfer et de l'enfer au ciel. Le ciel, c'est le Sacré-Cœur, l'enfer, c'est Pigalle. Nous, on va plutôt vers l'enfer,
ouais,
là.
C'est pas mal. C'est vieux. Ouais, ouais. J'avais jamais vu ça comme ça.
Ah
pourtant,
bon
j'ai descendu et monté cet escalier... 15 ans d'affilée, mais alors
ben voilà,
ça...
Mais il vaut mieux pas être trop conscient qu'on va du ciel à l'enfer. Alors, je vous demandais ce qu'il y avait de belge en vous, mais qu'est-ce qu'il y a de portugais en vous ? Parce que vos parents étaient portugais, émigrés en Belgique.
Répondre à ça, c'est accepter que qu'on peut généraliser, parce qu'après, je suis
qu'il y a
née...
quelque chose de portugais dans le monde.
Ouais, mais après, c'est culturel. Donc oui, forcément, alors on dit qu'il y a la saudade ou la mélancolie ou qu'ils sont doux, ou qu'ils sont comme si... Mais bon, ce qu'on peut généraliser selon les peuples. Donc, ce qui reste de mes parents, ben, des odeurs, une manière de cuisiner, une manière de penser. Parfois, je reconnais les Portugais qui pensent... Par exemple, les intellectuels portugais, quand ils commencent à parler, je vois une structure de pensée qui ressemble à celle de mon père. Je dis, ah oui, je connais ça, comment ça part, et puis ça n'a jamais son discours, et ça y revient après, un peu comme certains universitaires.
Votre père était musicologue. Oui. Qu'est-ce qui vous a dit de vos disques ?
Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais avec le temps qui est passé, si, il m'a dit dernièrement qu'il était... En fait, il est très pudique, donc c'est très difficile. Ça a été difficile pour lui de dire les choses, mais en gros, il a dit qu'il était fier et qu'il avait bien conscience que c'était difficile pour une femme et que là où j'en étais, voilà, blablabla, bla, bla, il fallait beaucoup de force et de caractère, etc. Donc c'est plus là que musicalement. Je crois que musicalement, j'en sais rien si ça lui plaît ou pas, mais il voit qu'il y a quand même une volonté. C'est important.
Là, on est sur la place Saint-Pierre. Alors, ce n'est pas la place Saint-Pierre de Rome, c'est celle de Paris, en bas du Sacré-Cœur, devant le square Louise Weiss, où il y a un manège.
Oui.
Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes.
Vous voulez passer par la rue touristique ou
bah là, on
ou
peut
on
prendre
la détourne
la rue. Non, non, allons-y.
Ah, vous voulez
à
aller à fond.
Ah ouais. À Fonton, la rue de Steinkerk.
Alors, moi,
avec
ce qui m'étonne.
Tous ces magasins de souvenirs et ces sandwicheries.
Oui, et puis, c'est, vous savez, il y a ces gens qui joue, il faut trouver la balle qui est cachée dans des petits pots, vous voyez.
Ah oui, le bonneteau.
Ça s'appelle comme ça.
Oui, les joueurs de bonneteau.
Bah, ça
ils
m'épate.
Trichent en général.
Ça m'épate que ça existe.
Trouver la balle ou le billet.
Voilà, et en fait, on les voit, et puis c'est tellement repérable à 100 000 km.
Qui trichent.
Ils sont en bande, mais oui, et puis qu'ils essayent de
ferrer. Oui, il y a ce qu'on appelle un baron.
Ferrer. Voilà,
de celui ferrer, qui vient, qui gagne, pour vous inciter à jouer.
Voilà, et ils sont là, et moi, je peux rester des heures à les regarder, ouais. Parce qu'on regarde leur manège, et c'est tellement visible.
Alors, qui c'est qui veut gagner? Le petit jeu est très facile, le petit jeu, c'est 50 euros. Allez, mesdames, messieurs, c'est le moment de gagner 50 euros.
Vous, j'ai l'impression, Elena Noguera, que vous avez fait une œuvre maintenant... Notamment parce que vous avez écrit la plupart de vos chansons, mais ce nouvel album que je trouve très réussi personnellement, comme souvent d'ailleurs. Et je trouve que, quand moi, il y a une œuvre, oui, il y a un style Elena Noguera, il y a un portrait. Vous dessinez depuis longtemps maintenant un portrait dans vos chansons, un portrait de femme. Je ne sais pas si c'est un autoportrait, mais c'est une femme qui est à la fois sentimentale et collectionneuse, intelligente et sexy, amoureuse et volage. Il aimait toujours fidèle à elle-même.
C'est ça, je suis volage, mais je ne me tromperai jamais.
voilà.
Voilà. Oui, mais bon, qu'est-ce que je dois répondre
ben
en
non,
fait
mais vous avez,
sur la
tout...
morale
non,
ou
vous
sur
vous
le
dites
portrait
toujours, quand je lis des interviews de vous, vous dites toujours, je trouve pas ma place, je suis obligé de tout arracher, personne ne me donne jamais rien, mais au fond, ça donne quelque chose à la fin.
Oui, ce qui comment je le traduirais aujourd'hui? Je dirais qu'en fait, ce que ça donne, c'est au-delà de moi. En fait, ce que ça dit, c'est que c'est difficile d'être une femme, c'est difficile d'être indépendante, c'est difficile d'être libre, que ça a un prix, qu'il faut être vaillant, il faut être solide. On croit qu'on est princesse et finalement, on devient une guerrière pour survivre. Et en fait, ce que vous appelez une femme volage, c'est une femme qui est libre et c'est difficile de trouver... chaussure à son pied, donc c'est volage...
C'est exigeante, volage.
Par défaut. Volage, non, mais par défaut, exigeant. Presque. J'aurais bien aimé un mari pour toujours, mais c'est compliqué quand on veut être indépendante et libre. Tous les hommes ne sont pas prêts non plus. Donc c'est ça que ça dit. Je dirais, au final, c'est pas tant ce que j'ai fait qui est important, c'est ce que ça raconte de ce que c'est qu'être une femme encore... En 2019, ce que c'est d'être née dans les années, fin des années 60, et quel est ce temps traversé. Voilà, je suis témoin de ça, et ce que je fais, c'est le témoignage de ça. Après, mes chansons sont pas importantes. Ce que je dis, c'est pas génial.
Il y a celle-ci, Je mens, avec, que vous chantez en duo avec Vincent de Dienne.
Oui.
Bon, on va l'écouter en le temps de traverser le square d'Anvers.
D'accord.
Tu me demandes qui je suis.
Je te demande si tu me suis.
Je ne sais pas, je danse avec le temps qui va son lent balancement.
Tu aimes le temps quand il se suspend, le souffle inattendu, le vent.
J'aime surtout qu'on se mente vraiment, quand on se parle de sentiments. Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant. Une image mouvante,
mais je peux être émouvante.
Je sais, tu danses comme le vent, et devant l'amour tu te rends.
À l'évidence et au tourment, moi le petit soldat, je me rends. Pourvu que toi, mon bel amant, tu me prennes pas les sentiments. Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pensais.
Tu danses trop, c'est agaçant. Dis-moi.
Oui, quoi?
M'aimes-tu vraiment?
Tu parles charmé, c'est évident. Je t'aime.
Tu m'aimes?
Mais oui, vraiment, je...
Tu?
Je t'aime inexorablement.
Quand tu dis des mots, j'y crois. Pourtant, pour toi, ce sont des roses, des vents que tu offres en guise de serment. Tu parles comme une valse à trois temps.
Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant.
C'était Elena Noguera et Vincent de Dienne qui chantaient Je mens sur l'album Nu. Vous mentez vraiment? Je ne vous vois pas menteuse.
Non, pas du tout. Salut, ça va? Ouais, très bien.
Vous connaissez les gens qui jouent à la pétanque?
Bah oui, parce que c'est mon quartier. Donc forcément, ça fait bizarre en plus d'un seul coup de passer là avec des micros et tout, ça se la pète un peu.
Bah, ils savent que vous êtes connus, non?
Oui, ils savent que c'est mon métier.
Et il y a une pièce à musique.
Mais ils peuvent se moquer parce que justement, il y a... Bon, c'est pas grave, mais on se moquera après, ils se moquera après. Ouais. Gna gna gna. Bref. Donc non, je mens pas trop. En fait, c'est des chansons qui racontent ou d'autres époques dans ma vie, mais j'ai abandonné ça. J'abandonne des choses au fur et à mesure sur la route. Et le mensonge, je l'ai abandonné.
Ouais, c'est ce que disent toujours les menteurs.
Ah ouais, mais ouais.
Non,
après,
non,
c'est difficile de...
J'arrête.
C'est difficile hein, de ne pas mentir, vous savez.
Eh bien, on arrive rue Rodier, dans le 9e arrondissement. On se retrouve dans un instant avec Elena Noguera dans un studio d'enregistrement. Hein. C'est là que vous nous conduisez.
Oui.
À tout de suite.
Elle a d'abord été mannequin, puis chanteuse, actrice. Après 30 ans de carrière, Elena Noguera sort Nu, son 6e album. L'artiste est ce dimanche en balade avec Frédéric Taddeï et c'est le moment de les retrouver dans l'appartement parisien d'un ami de la chanteuse.
Nous voilà au 5e étage avec Elena Noguera. Par la fenêtre, on voit exactement le décor que les Américains rêvent d'avoir quand ils viennent à Paris avec les toits gris. On se demande si on ne va pas voir la Tour Eiffel juste derrière. Et alors, nous sommes chez qui?
Nous sommes chez Pierre Davenkeller, que voici, qui est auteur, compositeur, chanteur, musicien.
C'est un studio arrangeur. D'enregistrement
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est là que je vis. Mais c'est vrai que j'ai une pièce dans laquelle je travaille un petit peu au fond de mon appartement. Mais en général, je ne fais que les maquettes ici. C'est-à-dire qu'après, je vais en studio en fait, enregistrer les instruments définitifs. Mais c'est là qu'on a travaillé avec Elena lorsqu'on a...
Et pas sur son album à elle, si j'ai bien compris, hein, sur
exactement,
le vôtre.
Exactement, c'est sur le mien, un album qui s'appelle Kino Musique, qui sortira au mois de septembre après l'été. Et avec Elena, on a enregistré sur... Elle a chanté sur deux titres, en fait. On a fait les maquettes ici, puis après on est allé en studio ensemble.
Elle a bien chanté?
Extrêmement bien. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui chante très bien et qui est très consciencieuse. Donc c'est très agréable de travailler avec elle.
Wow, 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 wow.
Moi, je m'y perds un peu dans sa carrière, parce qu'au début, c'était LNA, les trois lettres. Ensuite, ça a été Elena. Il y a beaucoup de disques encore aujourd'hui. Si vous allez sur iTunes, c'est Elena. Si vous mettez Noguera, vous ne les avez pas. Puis maintenant, Elena Noguera. Alors, je me demande si est-ce que c'est toujours la même. Est-ce qu'elles sont différentes, toutes les trois?
Non, c'est la même. C'est que je m'en fous sans doute de comment on appelle moi.
Enfin, vous remarquez qu'on vous diminuait au début, mais qu'aujourd'hui, ça n'était qu'Elena. Maintenant, c'est Elena Noguera.
Le premier disque a écrit LNA et Noguera en dessous. En fait, c'était graphique. Et moi, j'écrivais Elena, mais Noguera est déjà au départ. Mais vous pouvez m'appeler Claudia, ça ne me dérange pas.
Et maintenant, c'est Elenu.
Et il y a Elenu. Voilà, j'appelais, ça me faisait rire de dire « Salut, c'est Elenu !» au téléphone. Voilà.
Vous-même, Pierre, vous avez plusieurs noms.
Oui, j'ai fait des disques sous mon vrai nom, Pierre Bondu. Après, j'ai pris le pseudonyme de Daven Keller. J'étais arrivé en fait à un moment donné où j'avais un peu tout dit sous mon vrai nom et j'avais envie de partir sur d'autres pistes, etc. Donc,
vous avez beaucoup travaillé avec Philippe Catherine et il y a une de ses chansons que j'adore, c'est 100% VIP, que tout le monde adore d'ailleurs. Ouais. Et je l'ai souvent félicité pour cette chanson et jusqu'au jour, je me suis aperçu qu'elle était signée Pierre Bondu.
Ouais. Bah, en fait, Philippe a fait le texte, j'ai fait la musique. Oui, au départ, c'était une chanson qui était pour moi et un soir, Philippe est passé à mon appartement. Il l'a écoutée, je pense que c'était à l'époque de Robot après tout, son album sur lequel il y a Luxor, j'adore. Et il m'a dit « Non, moi je sais, je pense qu'il me faut absolument cette chanson, vends-la-moi. » Et j'ai cédé, et j'ai bien fait.
Vous avez touché des droits d'auteur quand même.
C'est complètement confidentiel.
À partir du moment où il y a votre nom dessus, et il y est, j'imagine que oui. Mais c'est une très chouette chanson, et c'est très rare que les Français arrivent à faire quelque chose d'aussi dansant, je trouve.
Oui, c'est vrai, déjà de par la langue, le français, c'est une langue un petit peu rigide. Donc je pense que rythmiquement, au niveau des sonorités aussi, de la langue, c'est pas toujours évident de faire des choses un peu, pas disco, mais un petit peu enlevées comme ça, rythmiques et dansantes, hein, c'est vrai.
Vous écoutez les jeunes chanteuses aujourd'hui ?
Oui, mais alors je les écoute un peu dans ma vague, ça va être Clara Luciani, ça va être un peu...
Les grandes tiges.
Les grandes tiges mélancoliques. Mais, ah non, il y a Corinne, j'aime beaucoup Corinne, et ça bouge, voilà, ça c'est plus disco.
Complètement, ouais. Ouais.
Donc si, et puis j'ai écouté, alors vous avez, on va savoir que je suis un petit peu datée, mais Kylie Minogue, des filles comme ça, ou Britney Spears.
Mais, ah oui.
Oui, non, j'aime bien aussi des choses commerciales. Hein.
En dépit du fait qu'on vous a élevé, vous avez écouté des disques de jazz.
En dépit du fait, oui, que j'ai écouté beaucoup de jazz, mais j'adore le jazz, j'adore Bill Evans, j'adore... Monk.
Monk, par exemple, il paraît qu'il est parti de chez lui le jour où ses enfants ont rapporté un disque des Beatles.
Ah oui,
oui il n'aimait pas. C'était un échec, il est parti, il n'est jamais revenu. Ouais. Bon, il était bipolaire en plus.
Ah oui.
Et vous, Pierre, vous êtes très cool musicalement ?
En fait, moi, je fais des projets très différents les uns des autres. Je peux rejoindre Elena là-dessus. C'est-à-dire que j'aime bien la diversité. Et je trouve qu'en plus, à une époque où, dans la musique, l'idée de carrière telle qu'on l'a conçue jusqu'à maintenant, avec des figures fortes comme Gainsbourg, par exemple, ou Aznavour, l'idée qui était qu'on fait un premier album qui est un peu reconnu, un deuxième album qui l'est un peu plus, et un troisième disque qui fait qu'on peut éventuellement rencontrer le grand public.
Et s'acheter une piscine.
Mais cette idée-là, en fait, ce fonctionnement-là dans la musique ne fonctionne plus, en fait, parce qu'économiquement, les choses ont changé, Internet est arrivé, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça peut être aussi une chance, c'est-à-dire que pour des gens comme moi, en tout cas, ou comme Elena, qui puissent faire des disques différents, dans le style, dans la forme, hein, dans le fond, c'est assez intéressant.
On va continuer notre balade. Merci Pierre.
Merci à vous.
On va redescendre les escaliers et partir à l'aventure.
En balade avec, c'est chaque dimanche sur Europe 1 de 11h à 12h30. Et aujourd'hui, Frédéric Taddeï est accompagné de la chanteuse Elena Noguera. Et nous sommes maintenant dans le 9e arrondissement de Paris.
Descendons la rue Rodier avec Elena Noguera en direction de l'Hôtel Amour. Vous sentez jamais le même parfum, pourquoi ?
Ah oui, c'est vrai, parce que je suis infidèle en parfum.
C'est vrai ?
Ouais, j'aime bien changer d'humeur. Bah, pourquoi on aurait une odeur ? Pourquoi on s'attacherait à une odeur ?
Oui, c'est juste pour que les autres vous reconnaissent.
Qui a dit ça ? Oui, mais il y a mon visage. mon visage, ma voix, ma pensée, mon énergie.
Dans le noir.
Pareil, mon visage, ma voix, ma peau, la texture de ma peau.
Ouais.
Bah oui.
Mais
non.
C'est pas perturbant pour votre amoureux ?
Non, je crois pas.
Personne s'est plaint ?
Personne, non, il n'y a pas eu de plainte. Et non, après, il y a des préférences. Il préfère comme ci ou comme là. Ou...
Ah, on vous dit, je t'aimais mieux hier.
Mais c'est marrant de jouer avec ça, ça dépend.
Et c'est en fonction de la météo, ça joue, là, il fait très beau.
Oui, ça peut être des choses plus printanières, plus des petites fleurs de printemps. Ça peut être des choses plus capiteuses, ça dépend des habits, ça dépend de l'humeur, ça dépend même parfois des personnages. Si je vais jouer un tel ou tel rôle, parfois il y a un parfum de personnage. Donc ça dure le temps du tournage.
Souvent on dit que les acteurs ou les actrices ont besoin d'enfiler les vêtements, de trouver les vêtements pour pouvoir se couler dans la peau du personnage.
Oui.
Vous lui ajoutez un parfum.
Voilà, des parfums, des musiques. C'est très marrant les musiques aussi, parce que parfois, si vous jouez une plus jeune que vous, il faut trouver la musique de vos 15 ans, donc il faut tout décaler. C'est pas mal, faut
oui,
faire
de
des
ses
recherches.
15 ans à elle. Bah sauf oui, qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, les enfants dansent sur la même musique que leurs parents.
Aussi, c'est vrai. Mais... de tout temps, je crois qu'on a fait ça. En fait, on est très attachés à l'époque de nos parents. Parce que nous, je dis nous pour vous et moi. Parce
dans les années 80
peu... Eh bien, nous, on aimait les années 60 et on connaît... Ouais. Par exemple, moi, je suis nostalgique du cinéma de Godard, alors que ce n'est pas du tout ma génération.
Non, c'était il y a quand même... Les films que vous aimez datent d'il y a 50 ou 60 ans. C'est quand même bizarre.
Ben oui, mais
vous n'êtes
que...
pas la seule, remarquez.
Ben oui.
La nouvelle vague, c'est la... Les gens ne se rendent pas compte que c'était il y a 60 ans.
Ben,
les
gens comme nous, oui.
C'est comme si Godard et Chabrol avaient été nostalgiques des films de Méliès.
Ben, ils l'étaient. Ils en parlaient, ils réagissaient à ça aussi. Ils réagissaient à Renoir, ils s'inscrivaient du contre.
Oui, mais ils ne les imitaient pas.
Non.
Souvent, les jeunes réalisateurs
ah oui,
ou réalisatrices imitent la nouvelle vague.
C'est vrai.
Vous écrivez des romans qui se passent à cette époque-là et qui ont tous les attributs de la nouvelle vague. Ciao à mort, je me souviens, ouais. Votre troisième roman, c'était vraiment un film de la nouvelle vague.
C'est vrai, mais ça ne se passe pas à l'époque, ça se passe aujourd'hui, mais il y a un ton, effectivement, de cette époque-là. Bah oui, je vous dis, moi, je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. C'est l'époque de mes parents et c'est ce qui...
C'est les meilleures nostalgies, c'est celles des époques qu'on n'a pas connues. On peut rêver
c'est
de
moins
ce
dangereux.
Que l'on veut.
Ouais. C'est plus libre. Ouais.
Vous êtes beaucoup sur Instagram. Qu'est-ce que vous y trouvez ? Ou qu'est-ce que vous y cherchez ?
Ah, je crois que je suis droguée maintenant à Instagram. C'est marrant, il y a plein d'images.
Pour quelqu'un qui a beaucoup lu, ça repose.
Bah, c'est horrible parce que ça me prend énormément de temps de lecture. Et donc là, je suis en phase de désintox.
On est rue Navarin.
Oui.
On arrive à l'hôtel Amour.
Oui.
Un hôtel très branché, rendez-vous des artistes, un ancien hôtel de passe.
Oui.
D'ailleurs, inauguré quoi, il y a en 2006, je pense, à peu près.
Ouais, peut-être, j'arrive pas à me rendre compte, mais c'est ça, ouais, je dirais 10 ans, 10, 11 ans. Ouais.
Vous aimez le jardin, vous aimez l'intérieur, les chambres ?
Ouais, tout ça.
Tout
j'aime
ça.
Bien aller dans le jardin, j'aime bien manger les macaronis, j'aime bien dormir, j'y dors. Mais d'ailleurs, je dors parfois à l'hôtel particulier aussi.
Ah oui ? On y dort bien, l'hôtel particulier ?
Ouais, c'est chouette de dormir à l'hôtel.
L'hôtel Amour, c'est plutôt un love hotel, c'est pas fait pour dormir.
On peut dormir.
On peut dormir
aussi.
C'est permis.
Ouais, on a le droit de prendre une chambre pour la nuit.
Bon, ben on s'y retrouve dans un instant, je ne sais pas encore où. On va voir ça avec Hélène Odeguera. Pendant ce temps-là, on va écouter Paris la dérive. C'est sur
d'accord.
Votre dernier album.
Oui.
Paris la dérive, 3 heures du matin. Ivre dans la ville, endormi. Je marche sans passé, sans lendemain. Je cours, j'ai compris, je m'enfuis. Serré contre soi, le pull qui déteint. Comme un amant évanoui sous la pluie qui démolit le visage que j'ai peint. Pourtant, hier encore, j'ai ri, c'était, je crois bien, dans ton lit et les plaies étaient comme ne sait plus. Le silence est doux, si lent et me voue à tout t'attendre sur ce quai. Mes souvenirs maquillés se jouent de moi, se jouent de tout. Pourtant, hier encore, j'ai ri, c'était, je crois bien, dans la nuit. Et le ciel était comme, je ne sais plus.
C'était Paris la dérive, chanté par Elena Noguera. On se retrouve tout de suite.
Vous êtes bien sûr Europe 1 en balade avec Frédéric Taddeï et la chanteuse Elena Noguera. Le moment de les retrouver attablés dans un hôtel parisien à côté de Montmartre.
Nous sommes attablés avec Elena Noguera dans le jardin de l'Hôtel Amour, au 8 rue Navarin, à ne pas confondre avec le Grand Amour, hein, qui, l'Hôtel Grand Amour, qui lui a rue de la Fidélité.
La Fidélité.
Eh oui. Et vous étiez mannequin à 15 ans, vous le disiez tout à l'heure. Quel souvenir en gardez-vous? C'est jeune, 15 ans, non?
C'est très jeune, mais à l'époque, on était très peu, très, si jeunes. Je me souviens que très peu de temps après moi, c'est Mila Jovovich qui est arrivée. Elle avait 13 ans. Moi, j'ai commencé, j'en avais 14. Mais voilà. Donc après, qu'est-ce que ça fait? Il y a les
Surtout
deux.
Vous êtes retrouvée à New York assez vite.
Moi, je suis partie à 15 ans à New York. J'étais là-bas à New York. Ou 14, je sais. Non, j'avais 15 ans. J'étais j'étais la plus jeune de
l'époque. Époque très décadente à New York.
Ouais, les années 80. Très décadente. Mais moi, j'ai traversé les choses avec la bonne humeur et l'innocence que j'ai et qui est... Je crois que j'ai un très bon instinct. Je sens les plans chelous. J'ai pas envie, mais je le juge pas. Je moralise pas la chose. C'est-à-dire, je sens que ça me plaît pas, donc je reste dans ma chambre et j'ai donc échappé aux drôles de week-end dans les drôles de piscines avec des drôles de types et j'ai rien vu. J'ai senti, mais j'ai rien vu. Et ce qu'il en reste après, le côté positif, c'est qu'en fait, j'ai vu le monde. J'ai voyagé énormément, donc j'ai pu relativiser, j'ai pu voir des cultures complètement différentes. C'est aussi un milieu très libre. À l'époque, c'était très gay dans tous les sens du terme, donc il y avait une grande liberté. Alors on a perdu beaucoup de gens avec le sida à cette époque-là. C'était un milieu très touché par le sida. Mais ça cristallisait, ça réunissait des milieux socioculturels très différents. Donc il y avait... une école de l'humain très très riche.
Ensuite, vous avez été pendant un certain temps animatrice de télé. Est-ce que c'était aussi riche culturellement?
Je dirais moins parce que... Mais ça apprend aussi des choses. Après, j'ai beaucoup filmé des gens puisque j'avais une émission qui s'appelait Une journée avec. Donc je passais une journée, je faisais ce que vous faites avec moi aujourd'hui. Moi, je passais une journée avec des gens très différents. Donc parfois, j'avais des a priori négatifs. Et finalement, à la fin de la journée, j'aimais la personne parce que parce que vous êtes là et puis que l'affect s'en mêle et puis que l'autre vous donne des choses et vous les voyez mieux. Donc c'est pas mal, on apprend. Il y a toujours quelque chose à tirer de ce qu'on fait.
Chanteuse ensuite, ça vous l'êtes restée.
Chanteuse, je suis restée, ouais, ce que je voulais faire ça. Je voulais être Shirley MacLaine, je voulais être chanteuse et comédienne, donc à ma manière, j'y arrive.
Et comédienne, c'est venu plus tard. Vous étiez chanteuse, c'était plus facile. Vous étiez la petite sœur de Lio à l'époque.
J'étais la petite sœur de Lio, mais j'avais fait des essais. Moi, j'ai commencé des essais comme comédienne à 15 ans. C'était pour un film de Jacques Doyon qui s'appelait La fille de 15 ans. Et Jacques Doyon m'a dit, mais tu joues vraiment très mal. Et je lui ai dit oui. Et c'était vrai.
Et les trois romans que vous avez écrits, c'était prévu?
C'était prévu aussi.
Parce que vous écrivez depuis très longtemps, depuis l'âge de 12 ans, je crois.
Ouais, petite.
Votre journal intime.
Le journal intime.
Vous l'avez relu?
Oui, je le relis régulièrement. Et en fait, le style change, mais l'essence est la même.
Vous le publierez à la fin, comme Jane Birkin?
Non. Non, non, c'est prévu. Ma meilleure copine, elle sait qu'il faut cramer ça quand je meurs pour que personne tombe dessus, ni mon fils, ni d'autres personnes.
Vous avez écrit pour le théâtre aussi?
J'ai écrit une pièce de théâtre, en effet. Pour Dominique Farrugia. Farrugia, on faisait le Burger Quiz, il me trouvait drôle. Il m'a dit, il faudrait qu'on bosse ensemble. Et puis, j'ai dit ça à ma copine. Et ma copine m'a dit, viens, on écrit une pièce de théâtre. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas. Donc, on est allé au théâtre, on a regardé des pièces, on a un peu regardé ce qui était possible. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une liberté incroyable au théâtre. Donc, maintenant, je suis une aficionado du théâtre. J'ai découvert des metteurs en scène. Donc, si vous prenez une brèche et vous vous mettez là-dedans, il y a toujours des
si
trucs
à apprendre. Si je vous dis, on fait une expo de peinture, par exemple, j'y vais. Au Louvre. Pour regarder
oui,
un peu
c'est
ce
ça.
Qu'on fait et puis hop.
Ouais, et je me dis, bah oui, si on me donne cette chance-là, si vous me dites, viens, je te donne une salle à Beaubourg, fais un truc, je ne vais pas le laisser passer ça. Mais effectivement, je vais apprendre, je vais aller voir et je vais aller voir quels sont les modes d'expression possibles dans lesquels je veux m'inscrire ou contre quoi je peux m'inscrire. Est-ce que je peux réagir? Est-ce que je peux modifier? En fait, je pense qu'apprendre, ce qui est chouette, c'est soit pour s'inscrire dans la chose ou bien pour la modifier. C'est pour ça que aller à l'école, c'est important parce que on comprend le monde et on s'y adapte et au moins on y survit ou alors on le modifie. Mais il faut savoir pour pouvoir le faire. Donc, ouais.
Vous avez réalisé un film porno aussi?
Oui, c'est vrai. Mais pareil, ils m'ont proposé ça.
C'était et au début, plus, hein, qui faisait sa
collection, c'est Sophie Bramley. Voilà, Sophie Bramley qui était devenue productrice et qui avait envie de faire sa collection de qu'est-ce que font les femmes quand elles s'emparent du X. Et quand elle m'appelle, je lui dis non. Et puis sur le chemin, elle a insisté, elle m'a dit mais viens me voir quand même. Et sur le chemin, j'allais au rendez-vous, puis je me suis rendu compte que je faisais plein de petits films avec ma petite caméra numérique. À l'époque, on n'avait pas encore les iPhones, mais je faisais quand même des petits films que je bricolais moi-même et qui étaient très pop, qui avaient des cagoules rouges et des robes à paillettes. Donc je lui ai montré ça, je lui ai dit bah, si tu veux que je fasse un porno comme ça. Et elle m'a dit oui. Donc j'aurais été bien bête de ne pas profiter de l'expérience.
Et il racontait quoi votre film porno à vous?
C'était une sexualité de super-héros. C'était de la pop-porn, en fait. C'était très pop et très mignon. Et après, c'était du point de vue d'une fille. Donc, c'était la jouissance de la fille. Mais il était assez, somme toute, assez classique parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de sexualité particulièrement féminine, mais qu'il y avait autant de sexualité que d'individus.
Et vos parents et vos enfants en ont pensé quoi?
Alors, mon fils était déjà... Il avait 17 ans. J'ai quand même attendu qu'il ait 17 ans et qu'on puisse en parler. Mais ils sont venus à la projection. C'était très drôle. Il y avait ma mère, mon fils et tous ses copains alignés pendant le... Et puis, ça allait. Ils ont vécu ça bien.
Vous ne jouiez pas dedans, il faut dire.
Non, aussi, je ne jouais pas dedans. Non, ça aurait été plus compliqué. Cela dit, quand vous filmez les gens en faisant ça, vous n'avez plus l'impression de filmer leur intimité. C'est très étrange. Vous avez vraiment...
C'est le spectacle qu'on en donne.
Voilà. C'est comme quand... un metteur en scène nous filme pleurant, vous ne me voyez pas pleurer. Et bien là, en fait, je me suis rendu compte que pour eux, c'était la même chose. Je n'avais pas accès à leur intimité.
Mais quand vous faites un album et que vous l'intitulez « Nu », est-ce que c'est une façon de nous promettre votre intimité?
De vous y faire croire, sans doute. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est déjà un travail, donc c'est déjà une modification. C'est comme une photographie. La photographie n'est pas moi.
Non, c'est toujours la reproduction ou
bah, c'est ça.
La sublimation ou au contraire, parfois c'est raté.
Voilà.
C'est moins bien que vous.
Voilà, donc mais ça n'est pas moi.
D'ailleurs, à la différence de quelqu'un comme Françoise Hardy, par exemple, quand on écoute toutes ses chansons, en tout cas quand elle était au début de sa carrière, il y avait un côté journal intime
oui,
qui n'y a pas chez vous. Peut-être parce que vous écrivez vraiment votre journal intime. Je pense qu'il y a plus le portrait d'une femme, mais qui n'est pas forcément vous, en tout cas qui ne relève pas du journal intime. Ce ne sont
non,
pas vos états d'âme, ce ne sont pas vos difficultés à vivre une relation. passion ou une
parce qu'en fait, c'est vrai pour le... Après, je ne peux pas parler au nom de Françoise Hardy, mais c'est vrai qu'il y a son journal intime. Ça nous semble comme ça. Mais me concernant, je pense que j'ai beaucoup plus de pudeur que ça. Et qu'en fait, je maquille les choses et que tous mes actes sont une petite provocation à repenser la chose. C'est-à-dire que je suis capable de rester sur un malentendu pour vous provoquer. Si vous ne me comprenez pas, ça ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est la provocation et ce que ça va faire réagir chez vous. Donc parfois, je dis des choses où les gens pensent que je suis ça. Et en fait, c'est... je ne peux pas m'empêcher. Ça me séduit tellement que je veux bien sacrifier une idée de moi dans la pensée de l'autre du moment que sa pensée réagit à quelque chose. Donc mes disques sont ça. C'est une idée d'une femme, mais ça n'est pas réel. Même ce que j'en dis n'est pas tout à fait réel. Quand on dit Elena Noguera est une femme libre ou est une femme libérée, c'est qu'il y a un problème. Donc mes sœurs sont donc en prison. Donc elle est où la prison ? Il est où le carcan ? Et de quoi je me libère ? Il y a un prix à payer. Être cette femme libre que je suis, c'est un chagrin, c'est une difficulté. Il faut beaucoup de force pour le faire et pour l'être. Donc c'est ça le portrait intéressant. Ça n'est pas la chanson en soi.
Eh bien, on se retrouve juste après les infos avec une femme libre.
Ouais.
Europe 1, en balade avec Elena Noguera, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Elena Noguera, qui sort un nouvel album, 5 ans, oui, presque 5 ans maintenant après le précédent. Il s'intitule Nu et nous sommes dans une voiture, direction la rue Jean-Jacques Rousseau. On va chez qui ?
On va chez Fifi Chachenil, qui est une créatrice, entre autres, de sous-vêtements. Elle est connue pour les sous-vêtements. Elle fait un peu des robes, mais elle fait des très beaux sous-vêtements, vous verrez ça.
Quand vous êtes arrivé à Paris, oui. Comment vous avez trouvé cette ville ?
Quand on arrive de Belgique, on la trouve sale, d'abord. Y a un truc un peu comme ça, cracra sur les trottoirs. Et puis les gens, on les trouve pas sympas, un peu snob, pas très bienveillants et très agressifs.
On dit souvent ça, mais je vois pas par quoi ça se traduit, l'agressivité des Parisiens à l'égard de ceux qu'ils croisent dans la rue.
Mais
c'est
par
vrai
exemple,
que tous ceux qui n'habitent pas Paris le disent, donc ça doit être
ça peut être les serveurs qui sont irrités parce que vous n'êtes pas assis comme il veut ou bien que vous ne payez pas au moment où il veut. Ça peut être quand vous êtes une fille et que vous êtes habillée un peu de manière excentrique et qu'en Belgique, comme en Angleterre, ça gêne personne, ils sont habitués. On vous fait des petites remarques, on vous dit des trucs bizarres, comme quelque chose de plus sauvage, comme si on arrivait dans une jungle un peu sauvage, le chacun pour soi.
Il y a aussi quelque chose, alors moi je le vois plutôt par défaut, quand je suis dans d'autres pays, j'ai l'impression que les autres peuples se regardent moins. Les Français, et peut-être plus particulièrement les Parisiens, mais je crois que c'est français ça. On se regarde beaucoup. Quand vous entrez dans un restaurant, tout le monde vous regarde.
Ouais.
Alors que à New York, vous étiez quand vous aviez 15 ans, je pense que vous pouviez rentrer dans un restaurant sans que personne vous regarde.
Oui, il y a une autre forme de liberté. C'est comme en Angleterre où... Vous pouvez être habillé, le punk est à côté du gentleman avec son chapeau melon et ça gêne personne et ils cohabitent tout à fait. En fait, si le respect est respecté, ça va. Et ici, il y a une espèce de c'est qui, c'est quoi, quelles chaussures, une espèce de. On jauge quoi.
C'est pour ça que vous avez écrit plusieurs tribunes dans Libération aussi. Hein. On peut toujours avec la même idée laisser les femmes s'habiller comme elles veulent. En l'occurrence, c'était au moment de l'affaire sur le burkini.
Oui, mais c'est surtout, je poussais encore une fois la provocation un peu plus loin, même si c'est certes une provocation, on n'y arrivera pas. Mais en fait, je disais, mais il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que tant que nous, les femmes, on sera d'accord pour débattre avec les hommes sur comment on peut ou pas s'habiller, ça veut dire qu'il y a peut-être une raison de penser que vous avez le droit de penser qu'on ne peut pas mettre ci ou ça. Il n'y a pas de débat. Moi, je ne débat pas. Je fais ce que je veux, point. Et je trouve qu'il faut arrêter le débat.
Et c'est pour celle qui met un burkini.
Oui, voilà, je ne le souhaite pas. Je pense qu'après, et c'est ce que je disais quand j'ai écrit cette tribune, c'est qu'après, de par l'éducation et la culture, on peut peut-être aider les personnes à voir que leur liberté est à un autre endroit que celle qu'ils croient. Mais en tout cas, à partir du moment où elle a envie de mettre un burkini, bah, qu'on lui laisse. Est-ce que nous, on vous dit qu'on n'aime pas les shorts à la Magnum et qu'on n'aime pas vos moustaches comme ci et que vous n'avez pas le droit de mettre une cravate comme là? Nous, on ne fait pas chier les messieurs de comment ils s'habillent. Pourtant, si on voulait, on pourrait aussi. Donc, il n'y a pas de débat. C'est ça que je voulais dire. C'est arrêtons de débattre. Et je disais, mes sœurs féministes, ne débattons plus. Ne donnons même pas la possibilité de débat. Il n'y a pas.
Il n'y a pas de message dans vos chansons. Il y en a dans vos tribunes, mais pas dans vos chansons. Vous faites attention? Vous l'interdisez?
Non, c'est que je ne sais pas le faire. Je trouve que...
Vous le faisiez bien dans Libération.
Oui, mais parce que j'ai plus d'espace. Le format chanson, je trouve que... En tout cas, moi, je n'ai pas le talent de faire en 3 minutes 40 cette idée-là que je viens de développer devant vous en un peu plus de temps et avec une rhétorique... plus longue où il faut que je déploie ma pensée. J'arrive pas à faire une chanson engagée, mais par exemple j'ai voulu dans le documentaire que j'ai fait sur les filles qui se déshabillent sur les effeuilleuses, à la fin j'ai repris la chanson de Tonton David et je l'ai transformée en message féministe. Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir.
Il n'y a plus d'émissions de variété aujourd'hui, ça vous manque? Des émissions où des chanteuses comme vous peuvent venir chanter leurs nouvelles chansons. J'ai l'impression que ça n'existe plus.
Oui, ça n'existe plus. Je ne sais pas si ça me manque.
Attends, il y a des télécrochets si avec...
Oui, en fait, c'est même pas que ça me manque ou pas. C'est que je me dis, tiens, on est rentré dans une drôle d'air. C'est-à-dire que les gens font des reprises, il y a très peu de place pour la création et il faut qu'ils s'éliminent les uns les autres. Donc il y a toujours l'élimination par rapport aussi à une performance, donc il faut être performant. Alors ça s'arrange, maintenant on voit des profils un peu plus intéressants qui arrivent, mais il n'y a pas de place, plus les émissions évoluent, enfin plus les années passent et plus les gamins qui arrivent, ils chantent à mort, il maîtrise à mort. Et en même temps, pourquoi pas? Peut-être que l'humain... on croit toujours qu'on est au climax de l'évolution, mais en fait, non. On est les Cro-Magnons d'un être génial qui arrive. Donc, nous sommes les Cro-Magnons de gens qui vont performer dingue, qui vont chanter...
Vous pensez que tout s'améliorera toujours? Alors, vous croyez au progrès encore?
Oui. Oui, je crois vraiment, je crois qu'on est les Cro-Magnons d'un être humain, si la planète le permet, et je pense que normalement, ça va, l'humain va trouver des solutions. Et un jour, on dira, en 2020, ils mangeaient de la viande, ils battaient les femmes, ils
n'aimaient
pas les PD, il y avait des riches et des pauvres, ils faisaient des concours, ils s'éliminaient, ils se bousculaient dans la rue, ils s'agressaient, enfin tout ça. Peut-être qu'un jour, il y aura un être humain complètement éveillé, altruiste et, comme vous disiez tout à l'heure, fraternel. Europe 1. Je crois.
Eh bien, on va se retrouver dans la rue Jean-Jacques Rousseau, au paradis des dessous.
Oui.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue. Continuons notre balade parisienne avec Frédéric Taddeï et Elena Noguera. En balade avec, c'est jusqu'à 12h30 sur Europe 1.
Nous voilà donc à l'atelier Fifi Chachenil. On est 68 rue Jean-Jacques Rousseau avec Fifi Chachenil. On est chez vous. C'est bien un atelier ici.
Ouais, c'est bien là.
Ça fait boutique aussi.
Ouais. Ça fait tout.
Ça fait tout.
Tout seul.
Alors ici, j'ai vu la plaque en rentrant. Elena ne regarde pas les plaques encore, hein, mais Jean-Jacques Rousseau était secrétaire de la famille qui habitait ici.
Et ouais, c'est même là où il a été inspiré pour écrire l'Émile.
Ah ouais.
Et c'est là où il a dit, mesdemoiselles, enlevez vos corsets. C'est pour ça que c'est là où je fais des corsets.
Rien que pour contrarier Jean-Jacques.
Rien que pour l'embêter. D'ailleurs, là, on est là où il mettait son cheval.
Sérieusement?
Sérieusement, oui, sérieusement.
En tout cas, la famille, parce que rien ne dit que Jean-Jacques lui-même avait un cheval.
Bah, vous croyez qu'il venait en jogging?
Oui, en jogging, oui, bien sûr.
en patinette?
Peut-être en patinette.
Alors, je crois que vous avez réalisé des costumes de scène ou de clips pour Elena.
Oui. De tout.
Pas seulement
tout.
Pour elle d'ailleurs, pour Lio, pour Marc Almond, pour Nina Hagen,
ouais.
Pour les filles du Crazy.
Oui.
Au cinéma.
Ouais. Aussi, vous savez tout.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est dingue.
Mais je vous suis depuis longtemps.
Mais on cache, nous. On c'est essaye vrai. De ne pas le dire.
Pourquoi c'est toujours c'est rose dès qu'on vend des dessous? Et vous ne vendez pas que des dessous. Il y a aussi des petites brassières, il y a des choses tout à fait. Et c'est rose. Pourquoi c'est toujours rose?
Alors, je crois que c'est parce que c'est une couleur qui est le plus neutre quand on pense à la peau.
Ah ouais?
Je pense que c'est pour ça.
Ça favorise, au fond, il y a une bonne luminosité, ça donne un beau teint.
Ça donne, voilà, ça fait sourire, ça fait rosir les fesses, ça rend bonne humeur, et tout ce qu'on vend là rend bonne humeur. Hein.
Ouais. C'est pour ça qu'au Ritz, tout le linge de salle de bain est saumon.
Ouais.
Pour les mêmes raisons, je pense. Saumon, rose.
Faut aller leur demander, peut-être.
Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. César Ritz, il s'y connaissait en fessier.
Pour en faire une enquête sur le pourquoi du rose.
Elle est facile à habiller, Elena Noguera?
Ah bah oui, ouais. C'est la plus jolie, alors c'est pas difficile.
Ouais.
Non, c'est
mais je me souviens, la première fois que je vous ai vu, c'était dans une cabine d'essayage.
Bah oui,
15-20 ans, vous étiez en train d'essayer une robe de princesse déjà à l'époque.
Et ouais, mais j'arrive pas à me souvenir de.
Je me suis dit, cette fille a un côté Angélique Marquise des Anges.
Ah, c'est cool. J'aimais bien ma Angélique ouais. Marquise des Anges.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des dessous, Fifi? Je peux vous appeler Fifi?
Oui, c'est mon ouais. nom. Donc, ça tombe bien. Ce qui m'a donné envie de faire des dessous, c'est que quand j'ai commencé, par hasard, j'habillais que des filles pour la scène. Et je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, ou c'était un peu restreint comme champ de...
C'est quoi, c'était les années 80?
Oui.
Ouais, c'est ça, c'est là où les dessous reviennent à la mode, au fond.
Peut-être.
En partie grâce à vous.
Et alors voilà, après je suis partie à Los Angeles et j'ai vu que tout le monde évoluait comme ça, presque tout nu, sur des patins à roulettes. Et je me suis dit, bah, ça c'est un costume aussi. Donc ça m'a donné envie de faire des petites choses comme ça.
C'est quoi votre matière préférée, Elena?
Oh là là, ma matière préférée, je ne sais pas, peut-être le coton, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait
depuis
ici.
Depuis qu'elle est décroissante, elle me dit le coton. Avant, elle aurait dit la soie.
Ouais. Non, parce que je n'ai pas beaucoup de choses en soie, vraiment. Mais j'aime bien le coton, c'est confortable. Mais c'est beau, les dessous en soie sont beaux. Mais il y en a ici de pas en soi aussi.
Qu'est-ce qui se vend beaucoup en ce moment?
Tout et rien.
Il n'y a pas de tendance particulière?
Ça, j'ai du mal avec les tendances.
Mais il n'y en a plus, j'ai l'impression. Moi,
comme... Tant mieux, tant mieux.
C'est vrai, autrefois je savais ce qu'était la mode, maintenant je ne sais plus.
Ben non, parce qu'il faut qu'on s'habille absolument comme on a envie.
Ouais.
Et chacune différemment.
Mais c'est vrai que c'est petit, on a l'impression que vous habillez que les enfants.
J'habille que les gens qui s'amusent.
Ou qui s'habillent court.
Non,
non. Ah, non, il y a des robes de dame.
Ah ouais.
Ouais. Ouais, ça c'est une robe de dame. Ah ouais,
ça
ouais.
c'est une robe pour moi.
Ouais. Tu l'as d'ailleurs.
Ouais, je l'ai. Je l'ai en beige, je l'ai en noir.
De cette balade, elle essaye de me faire croire que les vêtements ne l'intéressent pas, qu'elle vit nue.
Qu'elle n'aime pas la soie.
Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de robes. Quand j'en ai une, je la garde tout le temps. Et quand elle ne me va plus, je la ramène.
Bah c'est comme les amis. Vaut mieux les garder hein, quand on en a une.
Alors, les garçons, en revanche, c'est différent. Ça me rappelle une chanson de l'année zéro, qui est votre dernier album. Enfin, le précédent album. Ouais. L'avant-dernier, chanson que j'aime beaucoup, vous racontiez votre vie amoureuse, ça s'appelait « Ceux que j'ai embrassés ».
Oui.
Et c'était assez culotté parce que vous étiez la première à égrener comme ça toutes vos conquêtes. Normalement, c'est un truc de garçon. Les filles n'osaient pas toujours et vous avez été une des premières.
Un petit bilan de middle route.
On l'écoute.
Ok. Thank you.
beau jour, tu m'as embrassé. C'était un soir, je crois, au bar Hemingway.
C'était Elena Noguera qui chantait « Ce que j'ai embrassé ». On se retrouve dans un instant et on en parle.
Son sixième album nu est sorti en mars dernier. L'artiste aux multifacettes Elena Noguera est jusqu'à midi et demi avec Frédéric Taddeï. En balade avec, suite et fin, c'est maintenant sur Europe 1.
Nous sommes au 68 rue Jean-Jacques Rousseau, chez Fifi Chachnil, enfin à l'atelier Fifi Chachnil, avec Fifi Chachnil et Elena Noguera. Elena Noguera, cette chanson qu'on vient d'entendre, « Ce que j'ai embrassé », c'était la première fois, me semble-t-il, qu'une femme se présentait un peu comme une collectionneuse.
Ah bon ? Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, je l'ai fait.
Ouais. Ouais. Une de vos petites provocations, comme vous appelez ça ?
Oui, c'était marrant de dégrainer. Puis c'était un hommage, c'était surtout, en fait, j'avais envie de leur rendre hommage. D'ailleurs, je le dis dans la chanson, pas un que j'ai oublié,
ouais.
Parce que je les aime vraiment tous.
Je me suis dit, j'aimerais pas être à la place de son petit ami actuel.
C'est vrai, mais pourquoi ?
L'idée que vous pensez à tous ceux qui m'ont précédé, ça me rendrait dingue.
Mais tout le monde fait ça.
Mais vous savez bien que les garçons supportent pas le passé de leur femme.
Ah bon ?
Qu'en pensez-vous, Fifi ?
Alors là, je vais te dire une énorme bêtise qui va contre tout. Il faut prendre des très jeunes femmes qui n'ont pas de passé.
C'est ce qu'on fait. Les hommes ont fait souvent ça.
Les hommes ont fait souvent ça.
Et oui, ils choisissaient après, des vierges.
Voilà, c'est ça.
Mais heureusement, c'est passé de mode.
Donc il y a une solution. À tout problème, il y a une solution.
Alors je précise pour les gens qui nous écoutent que vous avez un ravissant nœud rose dans les cheveux, des cheveux blonds et une brassière bleue et une robe en Vichy bleue et blanche. C'est très années 80.
Oh, mais je suis un produit pur 80.
Comme c'est totalement revenu à la mode, c'est bien.
Oui, je n'ai pas bougé.
Vous auriez dit 80. Moi, je trouve qu'il y avait plus une inspiration 60s. Mais comme on disait,
on était dans la nostalgie des années 60,
ouais,
50, 60.
Ouais.
60,
vous
savez 70
vous savez
même.
Quand ça commence, d'ailleurs, cette mode rétro.
Non.
En fait, on peut la dater assez précisément.
Ah bon ?
Ça commence avec Bonnie and Clyde en 1967. Et pour la première fois, les jeunes s'habillent, ce qu'ils appelaient, les Américains appelaient ça le style grand-père, avec les pantalons rayés, les chemises sans col, etc. Et après, ça ne va plus jamais partir. On va rester toujours dans le rétro. C'était les années 30 à l'époque, parce que c'était Bonnie and Clyde. Et puis depuis, on est toujours dans la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue, mais qui était avant.
Alors là, j'ai une réponse, j'ai une explication. C'est à partir du moment où on a voulu aller sur la Lune et on a réussi à aller sur la Lune. Et là, ça nous a fait peur. Depuis, on a envie d'aller mollo et de freiner un peu.
C'est possible.
C'est possible, hein ?
Ouais.
Je ne dis pas que c'est une vérité. Je dis que je le dis.
Mais par exemple, dans les années 80, au moment où vous lancez votre marque de lingerie de dessous, au fond, on est dans la nostalgie des années 50, à ce moment-là, avec les soutiens-gorge pigeonnants.
Oui, moi, je n'arrête pas de me contredire. Alors, j'aime bien l'idée d'une femme qui s'affiche en tant que femme très féminine et presque objet, alors que c'est tout le contraire qu'elle est. Voilà.
Mais ça, ça vous a embêté, Elena, en commençant mannequin, puis en étant un peu animatrice, le côté beauté plastique, ça a dû vous...
Quand j'étais animatrice, j'étais pas.
Les animatrices en général, en tout cas à cette époque-là, on les recrutait beaucoup sur leur physique, non ?
Oui, sans doute, parce que j'étais. Mais encore, ça continue. C'est toujours mélangé, ce truc-là.
Ouais.
Même actrice, on m'engage parce que mon physique, il est pas. Je peux pas le décoller de moi. Maintenant, quand je suis animatrice, j'ai quand même une autre fonction que d'être juste jolie. Quand je suis mannequin, oui, je suis que jolie, et donc c'est une autre chose. Mais quand je suis animatrice, j'ai quand même des responsabilités, je fais des choses. Vous êtes animateur.
Mais pour mon physique.
Vous avez une pensée.
Surtout à la radio.
Pas à la radio.
Voilà.
C'est important.
Donc je ne suis pas d'accord pour l'association des deux idées. En tout cas, après, comme mannequin, oui, je n'étais pas très heureuse parfois d'être ça et de représenter ça.
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'un mannequin doit être intelligent.
Mais des fois, ça se voit. Mais même animateur, il y en a des bêtes.
Et où, en bah, fait, des oui. bêtes qui parlent.
Et après toutes ces années, toutes ces chansons que vous avez écrites et ce portrait de femme que vous avez dessiné, je vous le disais tout à l'heure, je trouve qu'il commence à y avoir une œuvre. Vous n'avez pas envie d'en faire quelque chose, un spectacle? Parce qu'après tout, toutes ces chansons d'Elena Noguera, elles se répondent, elles se parlent au fur et à mesure des albums, des années. Ce serait, là, vous allez partir en tournée pour cet album-là, pour Nu. Mais un jour, vous n'avez pas envie de les rassembler, de les réunir toutes?
C'est un projet. En fait, c'est un projet, vous le saviez, non?
Non.
Ah oui. C'est un projet, c'est Pierre Note, qui est un auteur de théâtre, qui est en train d'écrire une pièce, un portrait de femme, en prenant beaucoup de mes chansons et d'autres aussi, parce que dans mon parcours, j'ai aimé Dalida, Sheila, d'autres chansons que les gens connaissent plus que les miennes. Mais effectivement, de rendre à travers la musique, ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission, qu'est-ce que c'est qu'être une femme à notre époque et... quelles en sont les joies et les difficultés.
Je trouve que c'est une bonne idée, mais moi, je ne prendrais que des chansons de vous. Je ne prendrais pas les chansons de Dalida.
C'est vrai.
Il y en a des biens, hein, ce n'est pas la question, ouais. Mais je trouve que les vôtres...
Oui, mais là, je suis dans un moment de découragement, donc je me suis dit, il faut en mettre des connus. Il faut mettre des trucs que les gens connaissent et qui reconnaissent. Mais ça peut revenir, que je reprenne confiance en moi et qu'on ne remette que les miennes.
Oui, je suis sûr que ça ira mieux demain.
Peut-être.
Merci Elena Noguera de nous avoir emmenés en balade avec vous. Merci Fifi Chachenil de nous avoir reçus ici au 68 rue Jean-Jacques Rousseau. Merci à l'hôtel particulier à Montmartre où nous avons débuté cette émission. Merci à l'hôtel Amour de nous avoir également accueillis. Merci également à Pierre Bondu de nous avoir reçus chez lui. Je rappelle que votre album Nu vient de sortir et que vous serez bientôt en tournée dans toute la France. Bon dimanche, bonne journée et rendez-vous dimanche prochain à 11h.
Merci beaucoup Frédéric Taddeï, c'était En Balade Avec, votre émission à réécouter en podcast sur europe1.fr. Et cet après-midi à 15h, c'est Nicole Calfan que vous retrouverez aux côtés d'Isabelle Morizet. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est de 15h à 16h donc cet après-midi sur Europe 1.